Balloon is my Nigerian. Tiki taka 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 shiba el kof kun kiala. La pool kam la rawaz. Tiki fi jib shadi taka el pahira yali ghasmana.
Et 7 minutes à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'après-match. L'après-match spécial Cannes, comme vous y êtes habitués depuis le début de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un retour, bien entendu, lors de cette édition de l'après-match. Et bien sûr, sur les demi-finales palpitantes, passionnante, avec deux heureux élus, deux équipes qui se sont croisées lors du premier tour de cette CAN, l'Algérie face au Sénégal. Et pour m'accompagner ce soir dans cette édition de l'après-match, l'entraîneur marocain qui a déjà gagné une Coupe d'Afrique des clubs avec le Kaoukab de Marrakech, avec le Codem de Meknès. J'étais dans ce match, c'était face à l'Étoile du Sahel. C'est Abdelkader Omer. Abdelkader, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Jalal, bonsoir aux auditeurs, à nos auditeurs.
Alors on va bien sûr revenir sur les demi-finales. On va commencer aussi par évoquer l'actualité ici au Maroc. Ça a circulé un petit peu partout sur les réseaux sociaux, dans plusieurs sites d'information. La nouvelle de la supposée démission du sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, suite au fiasco de cette CAN, mais la fédération a publié un communiqué dans la foulée tout à l'heure pour démentir cette information. Voilà donc pour ce qui est de cette info. Alors, pas de démission de la part d'Hervé Renard.
Je pense que c'est précipiter les choses. Il faut attendre un peu que les choses se décantent. Il faut juger l'entraîneur sur, bien sûr, sur ses résultats, mais aussi sur ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé ici. Et s'il y avait des objectifs bien clairs dans le contrat et qui n'ont pas été respectés, là, ça peut mettre la fédération en position de force pour limoger. Si l'entraîneur a respecté toutes les clauses de son contrat, je pense que il faut discuter. Dans l'intérêt, personnellement, c'est un avis personnel, dans l'intérêt du football marocain, je pense que une résiliation de contrat à l'amiable serait mieux pour les deux parties.
Alors Hervé Renard donc qui s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, on peut lire donc sur Twitter son message. À ma demande, j'ai rencontré monsieur Fawzi El Qajar, président de la Fédération Royale Marocaine de football. Nous avons fait le point sur la compétition qui vient de s'achever. Pour nous, il appelle même pas donc cette CAN. Nous avons également parlé de l'avenir. Je lui ai fait part de mon point de vue, nous avons convenu de ne faire aucune déclaration publique. Voilà. C'est clair, hein, pour Renard, ils sont en train de négocier parce que, voilà. Ce qu'il faut dire aussi à Abdelkader Omer, c'est que ces deux-là, Hervé Renard, mais également Fawzi El Qajar, eh bien, sont un petit peu aujourd'hui dans une situation très compliquée, ils sont obligés de s'entendre, soit de s'entendre et poursuivre le travail.
Cornélien.
Voilà, exactement, ensemble, soit s'entendre sur une séparation parce que, ils sont liés jusqu'en 2022 et si jamais ils se séparent d'une manière qui ne convient pas à l'une ou l'autre partie, oui. Eh bien, ça peut être très, très compliqué. Parce que c'est une énorme quantité d'argent qui est en jeu. Parce que parlons aussi d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent.
On a eu le même cas déjà il y a quelques années avec Eric Guéretz. Donc, je pense qu'on n'a pas appris la leçon. Parce que maintenant, aujourd'hui, tous les contrats doivent, dans les contrats, ils doivent y avoir des objectifs qu'il faut respecter dans le temps, et si ces objectifs ne sont pas respectés, donc le contrat, il est facile de résilier un contrat. Maintenant, ce qui est fait est fait, donc je pense que c'est, comme j'ai dit déjà, que c'est dans l'intérêt des deux parties d'essayer de trouver une sortie, parce que je ne pense pas que Hervé Renard pourrait rester au Maroc vu tout ce qu'il a fait. Bon, il y avait une qualification en Coupe du Monde, mais il a promis de ramener la Coupe, il a promis d'arriver au moins en demi-finale. Donc, il n'a pas.
Ouais, mais malgré cette contre-performance, ce résultat n'annule pas son contrat. C'est ça le problème aussi.
Il est rejeté aussi par le public. Il faut pas le dire parce que ouais. Ce choix.
Mais après, rejeté par le public, commencer à
tout
prendre
ça,
des considérations
oui.
un tout petit peu, permettez-moi l'expression populiste. Bah, risque de coûter. Très cher à la fédération. Bon, on a entendu bien sûr et j'ai lu pour vous le message d'Hervé Renard sur Twitter. Il y a aussi un communiqué de la Fédération royale marocaine de football qui dément donc les informations qui circulent actuellement, qui font état de la démission d'Hervé Renard, son poste de sélectionneur de l'équipe du Maroc. A rappelé, on peut lire toujours dans ce communiqué de la fédération que Fawzi Rja a rencontré Hervé Renard dimanche et lundi afin d'évaluer la participation des Lions de l'Atlas en phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Lors de ces deux réunions, les deux parties ont passé en revue les enjeux futurs du 11 national et ont convenu de se réunir à nouveau lors des prochains jours. Donc ce qui se discute, c'est aussi peut-être les moyens d'arriver à une séparation. C'est ce que je comprends, moi, à travers la lecture de ces deux messages.
Oui, parce que s'il y avait continuité, on n'aurait pas fait ce message. Il aurait fait un rapport sur la Coupe d'Afrique et changé peut-être les joueurs et essayé de bâtir un nouveau groupe. Mais là, on ne parle pas de football. On parle peut-être de sous-entendus du contrat. Je pense que lui aussi, il va faciliter la tâche à l'équipe nationale s'il trouve vite un club, mais une équipe nationale.
Une nouvelle destination, en tout cas.
Je pense qu'on a entendu parler de l'Arabie Saoudite. Donc,
on parle de l'Égypte aussi.
De l'Égypte aussi, ça va aider un peu et ça va permettre aussi de ne pas payer des demandes.
Parce que j'explique juste une chose, mon cher Abdelkader Youmer, c'est que les termes du contrat entre Hervé Renard et la fédération sont clairs. Un contrat qui court jusqu'en 2022, jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Si l'une des deux parties veut arrêter, en tout cas, et mettre un terme à ce contrat, eh ben, elle devra payer.
C'est dans le contrat.
Voilà, il devra payer l'autre partie jusqu'à la date du terme du contrat s'ils ne se mettent pas d'accord. C'est-à-dire, alors, deux cas de figure. Si la fédération veut se séparer d'Hervé Renard et qu'Hervé Renard n'est pas d'accord, la fédération doit payer tout le contrat d'Hervé Renard. Si Hervé Renard veut partir et que la fédération n'est pas d'accord, Hervé Renard doit payer à la fédération la totalité des salaires qu'il devait percevoir jusqu'en 2022. Et la troisième possibilité, c'est un accord.
À l'amiable.
Et c'est ce qu'ils sont en train de chercher aujourd'hui.
Il faut trouver un accord à l'amiable, parce que ce n'est pas bien pour l'un ni l'autre. Parce que s'il reste malgré nous, il ne va pas faire du bon travail. Donc déjà, il est critiqué, il va être critiqué plus. Et pour le football marocain, ce n'est pas une bonne chose. Nous, on veut bâtir une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs, avec de nouvelles idées, avec peut-être un nouveau entraîneur. Et c'est pour ça que, pour le moment, je pense qu'il faut trouver une solution, comme j'ai dit tout à l'heure.
Il faut trouver une solution et on reviendra, bien entendu, en détail sur cette affaire. On va maintenant partir du côté de l'Égypte. Il y avait un match hier entre le Sénégal et la Tunisie. Et pour nous en parler, Hervé Penaud. Bonsoir, Hervé.
Bonjour les amis, comment allez-vous? On a vu des demi-finales absolument incroyables. Alors, la première contre la Tunisie, entre la Tunisie et le Sénégal. Alors là, j'ai rarement vu ça. Ça fait quand même quelques années que je suis sur des CAN. 11e CAN, mais alors là, quelle folie! Notamment à partir de la deuxième période, où alors ça a été totalement dingue. Un match qui partait dans tous les sens. Imaginez, deux pénaltys ratés. Un de chaque côté. Alors quand la Tunisie a eu son pénalty, on s'est dit ça y est. Bon, alors ça a été tiré par Sassi, enfin tiré, je vais un peu loin. Disons que ça a été toucheté la balle par Sassi. Après, pénalty pour le Sénégal, le bon Sénégal est en feu. Et qu'est-ce qui se passe? Pénalty raté. Incroyable scénario. Et alors, on se dirigeait vers la fin du match, un but refusé pour une petite main de Seve. Et on arrive dans cette prolongation. Et alors là, truc totalement fou. Un but contre son camp, le but de Brown. Et puis on se dit, bon, c'est terminé, il va se plus rien se passer. Mais non, il se rajoute encore une autre chose, c'est ce penalty sifflé contre Idrissa Gueye. Et après, avec le VAR, il a vu et il enlève le penalty, qui est, à mon avis, très logique parce que Gueye ne pouvait rien faire. En plus, il y a un nouveau règlement qui est assez simple. La balle vient d'un de ses partenaires, il peut pas enlever la main. C'est jouer au football sans bras, c'est compliqué. Donc, il ne peut pas se la couper. Donc, voilà, il n'y a pas main. Et le Sénégal s'est qualifié, mais un match totalement invraisemblable.
Voilà donc un match totalement invraisemblable, Abdelkader Youmir, la Tunisie face au Sénégal. On a été un petit peu, un peu
sévère.
sévère avec cette sélection tunisienne depuis le
Oui,
début du
oui,
tournoi.
oui.
Finalement, elle s'est améliorée au fil des matchs et elle a fait son meilleur match, sa meilleure mi-temps lors de la deuxième face à cette sélection du Sénégal.
Oui, comme on dit chez nous, l'appétit vient en mangeant. Donc, je pense qu'il a fait un premier tour quelconque, des matchs nuls, un football quelconque aussi, pas beaucoup de buts, déséquilibré offensivement, défensivement, un jeu individuel, quelques joueurs comme Khazri, Sliti, etc., qui font ce qu'ils veulent dans le terrain, il faut le dire. Je pense que après le, c'est des miraculés. C'est une équipe miraculée. Après, ils ont eu le match du Ghana qui les a réveillés, sont arrivés au penalty. Gérès a pris une décision de changer. C'est peut-être le premier point positif pour cet entraîneur. Il a décidé de changer. Le gardien de but. Il y a eu polémique, mais le gardien lui a bien répondu en arrêtant un penalty. Ils se sont qualifiés. Après le match de Madagascar est arrivé très fatigué parce qu'ils ne pensaient pas jouer autant de matchs. Ils ont fait une mi-temps honorable. En deuxième mi-temps, ils ont cédé 3 buts à 0. On voyait cette équipe arrêté en demi-finale parce que mais il nous a surpris encore une fois. Il fait un match une mi-temps quelconque contre le Sénégal, mais je pense que la deuxième mi-temps, il méritait de marquer 3-4 buts parce qu'ils avaient les possibilités, ils avaient le premier pénalty.
Ils ont complètement dominé la deuxième mi-temps, alors
Dominé
qu'en
offensivement,
en
hein.
première période, ils ont été, passez-moi l'expression, bouffés hein, par les Lions de la Teranga. Il y a eu ce tournant certainement,
Ce
ce
pénalty,
pénalty, ouais.
oui. Ils ont raté un pénalty, mais je pense que aussi c'est de la faute du Sénégal, parce que je ne comprends pas pourquoi Aliou Cissé, qui a essayé de presser haut en première mi-temps, en gardant un équilibre défensif. En deuxième mi-temps, il n'y avait plus d'équilibre défensif. Les arrières latéraux montaient, ne revenaient pas. Parfois, on a eu des situations où il y avait des 3 contre 2. Il y avait même des 1 contre 1. Il y avait
Il y a eu l'entrée qui a un peu changé beaucoup de choses de Sliti,
Il y avait
qui est
Sliti qui
entré
est rentré
en
à
lieu place de Msekni, et ce qui a permis aux hommes d'Alain Giresse de pousser fort hein, au retour des vestiaires. Ça a complètement chamboulé la physionomie du match.
Oui, parce que Sliti aussi, il a aidé défensivement. On le voyait. montait, il revenait, il montait, parce que Msekni ne revenait pas défendre. Et aujourd'hui, pour avoir un équilibre dans une équipe, il faut que les lignes soient équilibrées, il faut que les arrières, comme on voyait les couloirs, les milieux de terrain viennent défendre avec les arrières. Donc ce qui ne faisait pas Msekni, Sliti est entré, on le voyait défendre même dans les 18 mètres. Et je pense que ça a permis aussi de faire des transitions. Il y a eu de très bonnes transitions offensives, mais malheureusement, ils ne les ont pas concrétisées. Le pénalty est arrivé. Moi, je pense que il est arrêté, c'est la faute de Cessi, parce qu'il est mal frappé. Mm-hmm. Alors que le pénalty du Sénégal, c'est le gardien qui l'a arrêté. Donc c'était anecdotique.
Le héros malheureux. De cette rencontre, puisqu'il a fait cet arrêt extraordinaire sur le pénalty, oui. Et sur le but encaissé à la 100e minute par l'équipe de Tunisie, hein, après ce but contre son camp de Brown, puisque le ballon a percuté le visage du défenseur tunisien, surpris, parce qu'il s'attendait à ce que le gardien intercepte ce centre. Mais voilà, c'était donc ce but et cette ouverture du score. Alors on va bien entendu revenir sur cette rencontre avec ce fait marquant aussi, l'utilisation du VAR dans cette rencontre, mais aussi dans l'autre demi-finale. Et pour nous en parler, on revient du côté du Caire avec bien sûr notre consultant Hervé Penaud. Eh bien, le VAR, il a aussi existé lors de ces demi-finales. On l'écoute.
Voilà, nous aussi on a le droit au VAR, nous aussi on a le droit aux polémiques sur le VAR. Mais comme je l'avais dit un petit peu précédemment, moi je trouve que pour une fois, alors là le football africain a quand même donné des leçons finalement sur l'utilisation du VAR. Parce que pour le pénalty de l'Algérie, je regrette, mais la frappe est quand même très éloignée du joueur. Mandi fait un petit geste du bras, essaye d'enlever, pas enlever, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, mais là c'est difficile de se mettre à sa place et dans sa tête. Mais toujours est-il que la balle évidemment est sur la main. Mais alors là, quand on parle de proximité sur les frappes, sur les déviations, là il est très loin quand même. C'est un peu dans l'esprit, j'allais dire, Kimpembe. Donc moi, ça m'a pas vraiment choqué que cette main soit accordée comme un penalty, parce que d'une certaine manière, ça fait aussi partie du jeu. Il existe encore des mains dans la surface, alors que celle d'Idrissa Gueye, je le disais un petit peu avant, mais Idrissa Gueye, c'est complètement différent. C'est Kouyaté qui met une tête, boum, ça lui tombe sur la main, il ne peut rien faire. Et le nouveau règlement est assez clair là-dessus. S'il y a déviation de la balle de son propre corps, déjà par une autre partie de son corps, si c'est par un partenaire, juste à côté, eh bien, il n'y a pas pénalty parce qu'on ne peut rien faire. Donc je pense que là, pour une fois, quand même, le football africain fait honneur à son arbitrage. C'est très, très bien. Sur ces deux coups-là, je ne vois pas tellement ce qu'il y a à redire, mais il ne faut pas, je n'ai pas tellement aimé les acteurs du jeu de cette CAN expliquant ces deux mains, pourquoi elles ne sont pas sifflées. Non, c'est deux mains, oui, mais deux cas très différents. Et heureusement que maintenant, dès qu'il y a une main à la surface, on ne va pas se mettre à siffler pénalty chaque fois.
Alors, l'arbitrage, le VAR, l'histoire des pénaltys, je pense que, passer les polémiques d'hier, tout le monde aujourd'hui semble être d'accord avec les décisions arbitrales, que ce soit pour Bamlak Tessema, pour ce qui est du match entre l'équipe du Sénégal et la Tunisie, et puis Gassama pour l'Algérie contre le Nigeria. Peut-être l'incident le plus marquant, ça a été ce penalty d'abord sifflé pour la Tunisie en toute fin de match en faveur des Tunisiens en raison d'un dégagement de la tête de Sané qui heurtait la main de Gueye. Mais coup de théâtre, après vérification avec le VAR, l'arbitre éthiopien Tessema a changé d'avis et annulé en considérant que le geste de Gueye était involontaire.
Oui, c'est comme a dit Hervé Penaud. Donc, les deux cas ne se ressemblent pas parce qu'il a reçu la balle, il retirait sa main, donc il ne pouvait pas jouer en manchot. Donc, l'explication est suffisante. Mais je pense que l'arbitrage dans cette compétition a progressé parce que nos arbitres maintenant, c'est des arbitres qui peuvent jouer dans n'importe quel championnat ou c'est presque des arbitres professionnels. Aujourd'hui, les arbitres africains, c'est pas comme avant. C'est des arbitres qui ont des préparations de physique, qui travaillent vidéo.
En même temps, c'est pas pour faire l'avocat du diable, c'est Abdel Youmer, mais ce sont ces mêmes arbitres-là qui ont été à l'origine de véritables scandales dans les compétitions continentales. Ce sont les mêmes arbitres, parce que l'Afrique compte aujourd'hui 4-5 arbitres de renom, c'est les meilleurs, donc c'est eux qu'on retrouve dans les grandes compétitions. Là, si on parle des deux qui ont officié lors des demi-finales, Gassama, il a dirigé la finale retour, la fameuse finale qui va aller jusqu'à son terme entre l'Espérance et l'équipe du Wydad de Casablanca. Tessema, lui, a dirigé la finale retour de la Coupe de la CAF entre le Zamalek et la formation de la Renaissance sportifs de Balkans, ce sont ces mêmes arbitres-là. Mais aujourd'hui, on peut dire, moi j'ai suivi leur performance depuis le début de cette compétition, franchement, chapeau.
Oui, mais je pense aussi à une chose, c'est que, ça c'est africain peut-être, c'est les gens, ou les arbitres grandissent avec la compétition. Quand ils arrivent en Coupe du Monde, ils vont faire des prestations beaucoup peut-être mieux, ils sont sur les fautes, ils suivent de près. Donc c'est l'arbitrage, moi je dis qu'il a progressé par rapport aux autres cannes, aux dernières cannes, parce qu'aujourd'hui on voit des arbitres qui sont prêts des actions, les hors-jeux,
physiquement, ils sont performants, parce que c'est ça le...
On n'a pas des hors-jeux avant on levait le drapeau ou on le baissait quand on veut. Donc je pense que il y a rien à dire. Il y a eu aussi, il faut dire aussi que les terrains les ont aidés et les joueurs aussi, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de joueurs qui jouent dans les compétitions européennes et qui sont éduqués à respecter l'arbitre. Il n'y a pas eu beaucoup de protestations, il n'y a pas eu des coups bas, il n'y a pas eu des contacts. D'ailleurs il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu beaucoup de blessés. Donc je pense que ça aussi ça a aidé l'arbitrage africain.
Voilà, donc l'arbitrage qui aujourd'hui est au centre des polémiques, mais franchement, en tout cas pour ce qui est des décisions d'hier, c'était vraiment des décisions qui ne devraient pas susciter justement ces polémiques. On comprend les Tunisiens parce qu'ils avaient été déjà un peu volés lors de la précédente CAN en Guinée en 2015. Là, il n'y a pas eu de problème. L'arbitre a interprété que le geste de Gueye n'était pas volontaire et qu'il n'y avait pas lieu de siffler un pénalty. Ça sera la deuxième finale pour la sélection du Sénégal. C'est seulement la deuxième finale, on va se dire, pour le Sénégal après leur défaite au tir au but en 2002 face au Cameroun. Et vous savez qui c'est qui a manqué le pénal ?
C'est l'entraîneur.
C'est Aliou Cissé. Et on se rend compte aussi que le Sénégal n'a jamais rien gagné comme équipe nationale. C'est incroyable.
Oui, le Sénégal, il est toujours partant, mais il n'arrive jamais à gagner une coupe. Il y a eu beaucoup de générations de joueurs sénégalais, d'équipes sénégalaises. Il y a eu même en 2002 qui est arrivé en quart de finale de Coupe du Monde. Donc, il y a eu des grands joueurs, mais il n'y avait jamais d'équipe. Et les grands joueurs ne font pas d'équipe. Donc il faut qu'il y ait de la cohésion, qu'il y ait l'envie, qu'il y ait le respect. Il faut aussi qu'il y ait un langage d'entraîneur qui passe. Donc je pense que Aliou Cissé, en étant capitaine d'une équipe, d'une grande équipe du Sénégal, il a quand même le respect des joueurs, son langage, son discours passe facilement. C'est quelqu'un qui est méthodique. On l'a vu ici à Mamoura, donc il notait tout. Donc je pense que il est aussi aidé, il a un staff donc qui lui amène toutes les petits détails, parce que c'est des matchs qui jouent sur des détails. Je pense que le Sénégal cette année a montré un bon visage et que son arrivée en finale est très méritée, n'a pas été volée.
Alors une qualification méritée et pas volée. Et puis révolution en vue cette année sur les bancs de 24 participations à la CAN. Pour la première fois depuis très longtemps, les sélectionneurs africains étaient présents en nombre. Et deux d'entre eux vont disputer la finale. Aliou Cissé côté Sénégal et puis Jamal Belmadi pour l'Algérie. C'est la fin de cette première partie de l'après-match. On se retrouve dans un très court instant.
Alone is my Nigerian. Tiki
Bienvenue les amis dans cette seconde partie de l'après-match, après bien sûr la première partie qu'on a consacrée à la fois aux infos sur l'avenir d'Hervé Renard à la tête de la sélection. Juste, je rappelle qu'il y a eu des informations de presse aujourd'hui qui annonçaient la démission d'Hervé Renard de son poste, information aussitôt démentie par Hervé Renard lui-même sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général et par la Fédération Royale Marocaine de Football. Hervé Renard qui a confirmé avoir eu des rencontres ces derniers jours à sa demande avec le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fawzi Lkja. À ma demande, j'ai rencontré M. Lkja, président de la Fédération. Nous avons fait le point sur la compétition qui vient de s'achever pour nous. Nous avons également parlé de l'avenir. Je lui ai fait part de mon point de vue. Nous avons convenu de ne faire aucune déclaration publique. Voilà, ça a été le message sur Twitter d'Hervé Renard. Et puis, il y a eu aussi ce communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football sur son site internet, communiqué dans lequel la fédération dément également les informations qui circulent actuellement, qui font état de la démission d'Hervé Renard. A rappelé, précise la fédération, que le président Fawzi Lkja a rencontré Hervé Renard dimanche et aujourd'hui lundi afin d'évaluer la participation des Lions de l'Atlas en phase finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de ces réunions, les deux parties ont passé en revue les enjeux futurs du 11 national et ont convenu de se réunir à nouveau lors des prochains jours. Voilà pour ce qui est de l'avenir d'Hervé Renard sur le banc de touche de la sélection du Maroc. Hervé, on en a un autre dans l'équipe de l'après-match, c'est Hervé Penaud. Et avec Hervé, on va revenir maintenant sur cette qualification 29 ans après de la sélection algérienne, après une victoire à couper le souffle face au Nigeria. 29 ans après son unique sacre, l'Algérie va disputer donc la troisième finale de son histoire face au Sénégal. Mais que ça a été dur pour les Fennecs, Hervé.
Oui, Jalal, après, nous avons eu le coup de l'Algérie. C'est-à-dire que là, en revanche, une équipe supérieure. Hein. Les Algériens étaient supérieurs aux Nigérians. Et d'ailleurs, regarde notre ordre, l'a tout à fait reconnu à la fin du match. Mais encore, fallait-il gagner ce match-là? Et alors là, vous allez au bout du bout du bout du bout, coup franc pour Riyad Mahrez. Et un chef-d'œuvre absolu en pleine lucarne. Le gardien peut absolument rien et l'Algérie se délivrer et peut enfin aller en finale. Hein. Depuis 1990, ils attendaient ce moment incroyable. Mais ça paraît assez logique de voir quand même cette équipe d'Algérie en finale. C'est l'équipe qui a fait la plus forte impression. Elle a éliminé le Nigeria, elle a éliminé aussi la Côte d'Ivoire précédemment. C'est vraiment collectivement ce qui se fait de mieux. Individuellement, on connaissait la qualité des joueurs, mais surtout l'état d'esprit, la manière dont les joueurs maintenant sont intégrés dans ce projet de Jamel Belmadi, qui est quand même le grand ordonnateur hein, de tout ce qui est en train de se passer. Franchement, chapeau. L'équipe d'Algérie a fait une superbe démonstration depuis le début de la compétition et partira évidemment avec un petit avantage.
Voilà, donc petit avantage pour l'Algérie. On la voyait venir, hein, cette équipe d'Algérie, depuis le début du tournoi. Parce que c'est sûr qu'on parle beaucoup d'individualité, de Mahrez, de Farouli, de Ounes, de Raïs Mboulhi dans les buts. On parle aussi de Youssef Blaïli, qui est l'une des révélations de cette CAN. Mais au-delà des individualités, c'est le groupe. C'est ce groupe concocté par Jamel Belmadi qui nous impressionne.
Oui, on a découvert une équipe, mais on a aussi découvert ces bornes naissance ouais. d'un grand entraîneur, donc qui a construit cette équipe à son image. C'est une équipe qui ne lâche rien. On l'a vu d'ailleurs le finish de ce match, c'est-à-dire au moment où certains entraîneurs déjà à partir de la 90e minute, commençait après à se préparer aux prolongations. Lui, il continuait à pousser ses joueurs à essayer de faire quelque chose. Il y avait le coup franc qui arrivait, 93e minute, et le chef-d'œuvre de Mahrez. Donc ça, ça reflète que cet entraîneur, il est écouté, ça reflète aussi qu'il a apporté, on en a parlé plusieurs fois, la grinta, ça, le respect de ses joueurs, l'organisation. D'ailleurs, si on revient au match, on voit bien que en première mi-temps, c'est une équipe qui n'est pas allée presser. On voyait que dès le début, pour garder ses forces, il a essayé de jouer avec un bloc bas, tout en essayant de trouver Bounjah. Donc c'est la première fois que je voyais une équipe qui commençait un match en jouant en direct. Donc ouais. Tous les ballons allaient vers eux. Donc ça, c'est peut-être il prévoyait aussi les prolongations, qui sais-je. Mais il a essayé de distribuer. Il savait aussi que ses joueurs peut-être étaient un peu fatigués et il voulait distribuer le temps de travail, essayer un peu de gérer ce match pour arriver et peut-être pour donner le coup fatal. C'est ce qui a été fait. C'est un scénario qui était écrit. Peut-être par Belmadi.
Bah justement, c'est un scénario, on a l'impression qu'il est écrit parce qu'on voyait l'équipe d'Algérie alors gérer ses matchs comme exactement il voulait le faire. D'un côté, elle est là, en train d'attaquer sur les côtés, d'être très très agressive dans le jeu, de proposer, et puis après, garder le ballon.
Un calme plat.
Voilà, un calme plat, laisser les autres équipes venir. Et tu dis, Abdelkader Youmir, que c'est la patte de Belmadi. Belmadi, dont on écoute la réaction au micro de Fouad El Hennaoui.
Le plus important, c'était justement de se remettre dans le jeu. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. On m'avait déjà posé cette question avant le match de la Côte d'Ivoire, que comment nous réagirions si on encaissait un but. Vous avez vu déjà ce qu'on était capable de faire contre la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas eu besoin d'attendre ce match-là. Je sais d'où on vient. On aurait pu baisser les bras, on a levé la tête, on a été jusqu'au bout. C'est pas qu'on n'a pas voulu aller aux prolongations. S'il aurait fallu aller aux prolongations, on aurait joué au maximum que l'on peut. Mais les joueurs ont voulu gagner le match avant. Et ils sont repartis, on s'est créé des situations. J'ai dit peut-être pas des situations franches. Mais bon, s'il y avait des dernières passes, des avant-dernières passes qui ont été mieux faites, ça aurait pu être des situations franches. Donc les joueurs sont revenus dans le match et voilà, sont restés, ils ont cru jusqu'au bout. Ça nous servira sûrement encore pour un avenir très proche.
Voilà, un avenir très proche et l'avenir très proche pour la sélection algérienne.
C'est cette finale vendredi.
On écoute maintenant la réaction du héros de cette CAN, Riyad Mahrez.
On est très 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 heureux de rendre fier le peuple. C'était notre objectif. On le fait pour le peuple, pour nos familles. On sait que notre peuple est avec nous et derrière nous à fond. Donc on veut tout leur donner. Est-ce que c'est mon meilleur but? Je pense que c'est le plus important. En sélection. Oui, c'est mon rêve de remporter la Coupe d'Afrique. Là, on a un match. Alors, on va bien se reposer après, Inch'Allah. On va bien se concentrer parce que ça va être une autre bataille contre le Sénégal. Et Inch'Allah, on va essayer de la remporter.
Voilà. Est-ce que c'est son meilleur but? Il dit limite, c'est pas important. Mais son but le plus important avant le prochain but qu'il pourrait marquer en finale.
Qui pourrait lui rapporter le gros lot, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique. Je pense que ce joueur, par rapport aux autres étoiles, c'est-à-dire aux autres stars de cette CAN, il a été au top parce qu'on voyait Salah déjà au début, mais Salah a disparu. Donc on voyait chez nous les Marocains Ziyech. Et je pense aussi à un facteur dont on a parlé déjà, que le facteur de fatigue, parce que Ziyech, Salah et Mané, ils ont joué plus de matchs. Ils sont allés au bout de Ligue des Championnats, de champions. Leur championnat, ils étaient titulaires. Ouais. Mahrez, il a eu de la chance d'être un réserviste et aussi son équipe n'est pas arrivée en demi ni en finale de Coupe de Ligue des Champions.
Et peut-être mais les champions d'Angleterre, mais c'est vrai que lui n'a pas beaucoup joué.
Donc ça lui a permis d'arriver un peu frais et cette fraîcheur, on l'a vu parce qu'on le voyait sur tous les coups. Il défendait, on ne le voyait pas défendre, il défendait avec Attal, il défendait aussi avec Zafen. Donc il est devenu un leader technique et du vestiaire, parce qu'on peut être leader vestiaire, voilà, mais on peut être aussi leader technique, c'est-à-dire c'est lui qui donne le tempo, qui accélère, qui contrôle le rythme du match.
Et ce qu'on a remarqué hier, parce qu'à un moment, on le sentait un peu fatigué, émoussé, et la décision du sélectionneur algérien Jamal Belmadi de ne pas faire de changement, il n'a pas fait de changement hier. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il fasse, par exemple, rentrer Ounas, Islam Slimani, comme il le faisait vers la 70e, 75e minute.
Je ne pense pas que c'était juste de le faire changer parce que on jouait sur deux coups.
Il y avait non, mais les pas que lui, là, ça, il n'a pas fait de changement carrément.
Là, il y avait, oui, c'est ça, parce qu'il avait encore. Parce que j'ai dit, il ne lâche rien. L'équipe, il voyait que cette équipe allait bien. Il voyait qu'il pourrait tenter quelque chose. Et il a décidé de ne faire les changements que pendant les prolongations. Peut-être donner, essayer de mettre dans chaque ligne un nouveau joueur pour donner un peu plus de potentiel physique et technique à cette équipe. Et c'est pour ça qu'il a gardé ces changements pour parce qu'il aurait quatre. Imaginez si l'Algérie est arrivée en prolongation et qu'il y a un changement de quatre joueurs. C'est une nouvelle équipe. Et ça aussi, c'est dans la stratégie de l'entraîneur. Mais aussi, il avait confiance en Mahrez, parce que quand même, on le voyait de temps en temps parler avec Mahrez. Peut-être Mahrez lui disait qu'il était... Parce que nous aussi, ça nous arrive de discuter avec les joueurs, de demander s'ils peuvent encore continuer. Et peut-être que Mahrez a voulu rester.
Exactement. Et je pense que les joueurs, des fois, ils ont l'honnêteté de dire que... qu'ils en peuvent plus et qu'ils
préfèrent... Oui, quand ils sont fatigués.
Exactement, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus rien apporter. Mais quand ils peuvent donner... Et ça, c'est une question de confiance entre le joueur et l'entraîneur. On écoute la réaction d'un autre des héros algériens de cette demi-finale, Sofiane Farrouli.
On est très heureux pour le peuple algérien, voilà. Félicitations à tous ceux qui sont venus dans la tribune. C'est pour eux cette victoire. Félicitations, c'est pour eux cette victoire. Je pense qu'on a contrôlé le match dans l'ensemble. On aurait pu faire la différence plus tôt. Mais bon, ça a été à la dernière minute. Tant mieux pour le spectacle, j'ai envie de dire. Mais l'Algérie ce soir a été supérieure. On a contrôlé le match et on mérite cette victoire. Ouais, c'est magnifique. Franchement, faut fêter ça. Après, nous, les joueurs, on sait pourquoi on est venu à cette CAN. On avait l'ambition de venir jouer cette finale. Donc on y est. Faut redescendre rapidement. À partir de demain, faut penser à la finale pour la préparer, pour essayer, Inch'Allah, de la ramener en Algérie.
Voilà, ramener ce trophée en Algérie 29 ans après l'unique sacre de la sélection algérienne de la génération, bien sûr, la fameuse génération Rabah Madjar. Ces deux finalistes se sont déjà croisés au premier tour, 1-0 pour l'Algérie. Est-ce que ça donne un avantage aux Algériens, surtout qu'on sait c'est une rencontre qui avait été aussi marquée par des erreurs d'arbitrage, notamment un pénalty flagrant pour le Sénégal qui n'a pas été sifflé par l'arbitre lors de cette rencontre. Est-ce que c'est un avantage psychologique pour l'Algérie, ou pensez que c'est une finale ne ressemble finalement pas du tout aux autres rencontres?
Pour moi, je pense que ça n'a rien à voir. C'est un match nouveau, avec des tactiques nouveaux, parce que les équipes, ils ont progressé en cours du tournoi. Il y a eu des changements. Donc, je pense pas qu'on va bâtir le nouveau match sur les mêmes systèmes, le même système qu'ils ont utilisé dans la phase des groupes. Donc je pense qu'il y aurait eu des changements. Il va y avoir du surprise. Il ne faut pas oublier aussi que le Sénégal, il perd son défenseur central, Koulibaly.
Donc le défenseur de Naples.
C'est un grand coup pour eux. Mais je pense que, comme il a dit Farrouli, donc contrôler le match, respecter le plan de jeu. Parce que cet entraîneur-là, il a un plan de jeu. C'est comme s'il conduit une voiture. Il sait qu'il y a des virages, il sait qu'il y a des montées. Donc il essaie de diviser les 90 minutes à sa guise. On voyait qu'à un certain moment, il fait un pressing haut, puis il revient, puis il essaie un petit peu de balancer vers Bounjah pour faire reposer les milieux. Et parfois, on le voyait qu'il essayait d'utiliser les montées des arrières. Après, on ne les voyait plus. On voyait que Farrouli, on voyait Bleyli et Mahrez. Donc, il a tellement de schémas de jeu où je pense que les joueurs lui rendent bien, qu'il a les moyens de sortir et de répondre à l'adversaire, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Il utilise bien les balles arrêtées aussi, parce qu'on voyait que les corners, ils sont travaillés. Il a quand même un bon tireur, et ça, c'est une force aujourd'hui d'avoir des frappeurs, des bons frappeurs de coups francs. Mahrez, et ça donne un avantage supplémentaire à cette équipe d'Algérie.
Voilà, avantage à cette sélection algérienne. L'autre sélection, elle a aussi sa star. Il s'appelle Sadio Mané. Il a gagné la Ligue des Champions Il est aujourd'hui, en tout cas, il a la possibilité aussi de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça pourrait faire de lui un candidat, un favori pour le Ballon d'Or? Pourquoi pas, affirme notre consultant Hervé Penot, qu'on écoute.
Ah, un petit sujet qui me tient à cœur quand même. Mais imaginez, si vous aviez un ballon d'or africain, si l'Afrique pouvait avoir un ballon d'or, ce serait magnifique. Alors on pensait à Mohamed Salah, si l'Égypte avait remporté la CAN, hein, avec le public, avec tout, ça aurait eu un engouement terrible et peut-être touché beaucoup de pays de votants. Et là, vous avez quand même Sadio Mané, finale de CAN. S'il remporte la finale de la CAN, attention, avec meilleur buteur du championnat d'Angleterre, vainqueur de la Ligue des Champions, après, deuxième du championnat d'Angleterre, on a vu dans quelles conditions contre Manchester City, je regrette. Mais je pense qu'aujourd'hui, un joueur comme Mané a tout à fait le droit de revendiquer le titre de meilleur joueur de l'année. Attention, alors c'est vrai qu'on sait que beaucoup de votes iront sur Messi et Ronaldo. Mais, imaginons une méga finale, 2-3 buts, une finale qui est bien vue dans le monde entier. Eh bien, je regrette, mais Mané, il a le droit, en tout cas, top 5, ça, j'en parle même pas, mais il a le droit de rêver, pourquoi pas, sait-on jamais, à décrocher le ballon d'or.
Voilà, pourquoi pas un ballon d'or pour un footballeur africain et ça pourrait être Sadio Mané, la finale donc, finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera vendredi face à face l'Algérie et le Sénégal. L'Algérie qui vise un deuxième titre, le Sénégal un tout premier, le Sénégal qui n'a jamais été sacré en Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup à Abdelkader Youmir qui nous a donc accompagné tout au long pratiquement de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de cette édition de l'après-match. Mille merci d'avoir suivi. Excellente soirée.